Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans Le Meilleur des Mondes, l'émission de France Culture qui s'intéresse aux bouleversements suscités par le numérique et les nouvelles technologies. Et ce soir, nous avons la chance de recevoir le ministre délégué chargé du numérique dans notre studio, Jean-Noël Barrot, un ministre actif, très présent sur le plan législatif. Nous pouvons évoquer la loi Influence, puis celle sur la majorité numérique et dans l'actualité immédiate, la grande loi SREN qui vise à sécuriser et réguler l'espace numérique, lutte contre le cyberharcèlement, contre l'accès à la pornographie pour les mineurs, ou encore contre la propagation de la haine en ligne, une loi au large contour qui vient d'être adoptée le 17 octobre à l'Assemblée nationale, mais qui pose tout de même de nombreuses questions quant à son application technique et même éthique. Ce sera l'occasion d'y voir plus clair. La dialectique est classique. Comment sécuriser sans restreindre nos libertés, fondatrices de nos usages du numérique? Comment réguler sans étouffer l'innovation nécessaire pour se faire entendre sur un marché mondialisé et hyper concurrentiel? Enfin, comment la France se place et s'inscrit-elle dans le grand mouvement de régulation européenne, tel le DSA, le Digital Services Act, sachant qu'une Union européenne lui reproche parfois de faire cavalier seul, un cavalier qui entend faire respecter sa loi pour mettre fin au Far West numérique, là où les cow-boys de la Silicon Valley ont pour habitude de dégainer les premiers. Voilà le décor est planté, place au meilleur des mondes. Jean-Noël Barrot, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes donc depuis juillet 2022 ministre délégué chargé du numérique, mais également vice-président du Modem, et vous avez longtemps été député des Yvelines. Nous pourrons ensemble revenir sur votre parcours, notamment votre passage aux États-Unis, au MIT, sur votre rapport personnel aussi au numérique, et évidemment sur les contours de la loi SREN, en évoquant les enjeux aussi de souveraineté technologique. Vous aurez l'occasion de répondre à des questions d'entrepreneurs, de chercheuses ou de responsables d'associations de défense des droits. Au programme également, une chronique de Juliette Devaux qui nous rappellera la déclaration fondatrice du militant et poète John Perry Barlow et sa déclaration du cyberespace, un peu en écho à nos sujets du soir. Le meilleur des mondes s'écoute en direct ou en podcast sur l'application Radio France et se regarde aussi sur la chaîne Twitch de France Culture.
Pour moi, c'est mettre des règles de droit dans un espace où le droit existe.
Depuis plusieurs mois, le nombre de plaintes pour des arnaques en ligne explose. Le gouvernement veut mettre en place un système de filtres.
Aujourd'hui en France, environ un tiers des mineurs fréquentent des sites porno. C'est quasiment la même proportion que chez les adultes.
Le sentiment d'anonymat sur les réseaux sociaux développe un sentiment d'impunité.
Qu'est-ce qu'on peut faire ?
Bah, signaler et se mettre à plusieurs pour bloquer, enfin signaler tout ça.
Exactement, le signalement.
Sans être victime, ils risquent tous d'être un jour témoins de cyberharcèlement.
Chaque personne sur Internet aurait un code unique. Cette identité numérique permettrait de remonter jusqu'à l'auteur de l'infraction en ligne, uniquement sur demande de la justice.
Sécuriser et réguler l'espace numérique, c'est très vaste comme ambition.
L'insécurité que nos concitoyens rencontrent chaque jour sur Internet sape leur confiance dans le numérique. Tous les Français sont concernés, et notamment les plus vulnérables, je pense à nos enfants, et les plus fragiles.
Alors Jean-Noël Barrot, pour apprendre déjà à mieux vous connaître, quel homme connecté êtes-vous ?
Je crois que, comme tout le monde, j'ai invité le numérique dans mon quotidien. La question que je crois nous devons nous poser à chaque étape de notre vie, c'est comment faire en sorte que le numérique améliore notre quotidien. Et c'est vrai à titre individuel, c'est vrai aussi dans nos vies professionnelles, dans les responsabilités qu'on exerce ou dans des responsabilités politiques. Et dans le ministère qui m'a été confié, c'est la question qu'on se pose au quotidien. Comment cet outil qui est le numérique, comment cette technique, cette technologie-là, peut rendre le monde meilleur. Ce n'est pas si simple. Il faut trouver les bonnes solutions et il faut faire en sorte que chacun puisse en bénéficier.
Alors là, je vois justement à côté de vous un smartphone. C'est quoi comme smartphone ?
C'est un Samsung.
C'est un Samsung. Vous êtes quelqu'un plutôt de connecté. Vous diriez que vous êtes présent sur les réseaux sociaux. Vous considérez comme, je ne sais pas, un peu geek ou au contraire, vous essayez d'avoir une distance par rapport à cet outil-là ?
Je suis par la force des choses amené à travailler avec des outils numériques. Je suis chercheur de profession. Mon outil de travail, c'est un ordinateur, des logiciels de statistique et d'économétrie. Puis depuis que je me suis engagé en politique, évidemment, les réseaux sociaux étant devenus au fil des années des espaces d'expression, eh bien, j'ai commencé à les utiliser pour m'exprimer et pour travailler.
Mais vous en sentez pas dépendant pour autant. Vous faites pas partie des gens qui se disent « j'y passe un peu trop de temps, il faut que je m'accorde un petit peu de certaines pauses qui pourraient être salutaires ?»
Je crois qu'il est toujours bon de faire des pauses, de faire des jeûnes de temps en temps pour se recentrer sur l'essentiel. C'est vrai, quels que soient les outils qu'on emploie, quelle que soit son activité professionnelle, et c'est vrai des outils numériques.
Alors votre nomination au ministère en juillet 2022, je l'ai dit, a pu surprendre certains parce que vous aviez peut-être un profil un peu moins expert du numérique que certains de vos prédécesseurs, Cédrico, Mounir Majoubi plus longtemps avant, ou même Axel Lemaire si on remonte. Qu'est-ce que vous diriez du niveau de connaissance de nos élus sur les enjeux du numérique? On a pu constater pendant un certain temps, enfin moi qui m'intéresse à cette question depuis quelques années maintenant, que parfois nos élus n'étaient pas toujours très conscients, très avertis, très informés par rapport aux enjeux technologiques, qui sont parfois des enjeux d'ailleurs complexes à comprendre, hein, on est d'accord. Mais on pouvait sentir une forme de déconnexion par rapport à ces outils. Vous avez l'impression que c'est en train de changer?
C'est progressivement en train de changer, mais il reste des progrès à faire pour maîtriser mieux ce qui, dans le numérique, est vecteur d'épanouissement et d'émancipation, de ce qui est vecteur plutôt d'aliénation ou de dépendance. Le numérique a été perçu pendant longtemps comme un progrès qui allait certes provoquer quelques inconvénients qu'il fallait essayer de minimiser ou de résoudre, mais un consensus est globalement formé sur cette idée-là, ce qui peut-être a découragé certains responsables politiques de se saisir pleinement de ce sujet dans sa complexité. Je crois que à l'avenir, avec le développement de la société de l'économie numérique, mais aussi avec l'apparition d'un certain nombre des inconvénients associés à la généralisation de cette technologie, les politiques vont se saisir de cette question-là et des clivages vont progressivement se former, avec d'un côté ceux qui voudront toujours plus de technologie, de progrès technologique, de numérique autour de nous et dans nos vies, et ceux qui, au contraire, très méfiants des inconvénients en matière de coûts pour l'équipement, la cybersécurité, etc., en matière d'empreinte environnementale ou en matière d'impact sur le débat public ou sur la oui, sécurité du quotidien.
Oui, on parle beaucoup de démocratie, effectivement, sur le jeu, les manipulations d'opinion, etc.
Verront dans le numérique une technologie utile, mais dont il faut dépendre au minimum et non pas à maxima. Et je crois au contraire qu'il faut adopter une approche de ces questions-là en matière de politique publique qui s'écarte de l'une et l'autre de ces deux postures.
Sortir d'une forme de manichéisme.
Ouais, et discerner à tout moment ce qui, dans les technologies numériques, est une nouvelle fois vecteur d'épanouissement de la personne humaine, de ce qui peut être vecteur d'aliénation, de dépendance ou de fragilité.
Alors précédemment, justement, concernant votre poste, c'était un secrétariat d'État. Là, vous êtes ministre chargé du numérique. C'est un signal aussi politique est envoyé par rapport à ces prérogatives qui s'élargissent. C'est une manière de dire que le numérique, finalement, est un enjeu crucial et qui transverse d'ailleurs de nombreuses problématiques.
Un enjeu de plus en plus important, avec la nécessité de conquérir une forme d'autonomie en matière numérique. C'est l'objet de la politique que je conduis pour soutenir l'innovation. Les entreprises de forte croissance dans notre pays susceptibles de développer en France et en Europe ces technologies que nous mettons entre nos mains. C'est un enjeu de sécurité, à la fois de santé publique, mais aussi d'ordre public. Et c'est tout l'effort de régulation qui a été initié, notamment par la France et le président de la République au niveau européen, et que nous poursuivons avec ce projet de loi que vous évoquiez en introduction. Puis c'est un enjeu aussi de démocratisation, puisqu'il y a aujourd'hui un tiers de nos concitoyens qui sont éloignés du numérique, soit parce qu'ils ne sont pas internautes, soit parce qu'ils ne sont pas compétents ou ils ne se sentent pas compétents. Et ça, c'est absolument inacceptable. Et il nous faut évidemment combler ces fractures pour éviter qu'elles ne viennent aggraver ou creuser les inégalités entre les Français.
Oui, cette fracture numérique, c'est un thème qui vous est cher. Vous avez déjà beaucoup travaillé dessus. Pour terminer juste sur ce côté périmètre, pourquoi pas un ministère directement du numérique qui ne soit pas rattaché donc comme ici à Bercy, mais directement à Matignon. Ça a été d'ailleurs le cas d'une proposition de certains candidats.
Ça pourrait l'être. Il est vrai qu'on a déjà pas mal de travail, mais que à l'avenir, il pourrait être envisagé de rendre ce ministère encore plus interministériel en le plaçant directement sous la tutelle de Matignon et de la Première ministre. Ceci étant dit, je dois dire qu'avec Bruno Le Maire comme ministre de tutelle, je travaille dans les meilleures conditions possibles.
Mais c'est pas justement un peu trop restrictif d'imaginer le numérique dans le giron du ministère de l'Économie ? C'est déjà une forme d'orientation. Ça met peut-être un peu de côté ces autres aspects que vous avez d'ailleurs évoqués, les aspects sociaux, les aspects philosophiques. On voit que le numérique, justement, irrigue toute notre société.
Ce n'est pas ce que je ressens au quotidien. J'ai, la pleine confiance de Bruno Le Maire pour conduire ces politiques qui, il est vrai, ont une dimension sociale, parfois une dimension régalienne, comme celles qui ont une dimension plus proche de la, je dirais, des objectifs de politique publique de Bercy, que sont le soutien de l'innovation des entreprises, etc.
Alors, on va justement commencer à entrer en détail sur cette loi SREN. Elle est large, donc on a choisi quelques points qui nous semblent les points peut-être les plus pertinents. Donc, celui de l'accès aux sites pornographiques sur la question des mineurs, réguler donc cet accès, interdire cet accès aux mineurs sur les sites pornographiques. Il faut trouver donc des outils de vérification d'âge qui respectent nos libertés. On a vu que d'autres pays ont tenté cette expérience avant la France, donc la Grande-Bretagne et l'Australie. Les deux ont rebroussé chemin. Qu'est-ce qui ferait que la France réussirait là où les autres ont échoué ?
Alors d'abord, ce n'est pas tout à fait vrai que le Royaume-Uni et l'Australie ont rebroussé chemin. Le Royaume-Uni a adopté le 19 septembre dernier, c'est-à-dire un tout petit mois avant l'adoption par l'Assemblée nationale du projet de loi que je porte, une loi qui prévoit exactement les mêmes dispositions que celles que j'ai inscrites dans mon texte. Ces dispositions, quelles sont-elles ? Eh bien, elles partent du constat qu'il y a aujourd'hui dans notre pays 2 millions d'enfants qui sont exposés chaque mois au contenu pornographique, à des âges extrêmement précoces, puisqu'à 12 ans, c'est la moitié des petits garçons dans notre pays qui sont exposés à ces contenus chaque mois, avec des conséquences dramatiques.
Quand vous dites petits garçons, c'est petits garçons précisément ou petits garçons, petites filles
Pour les petites filles, la proportion est un peu moins grande, mais elle est néanmoins spectaculaire, puisqu'on est de l'ordre du tiers. Mais pour les petits garçons, à 12 ans, c'est la moitié chaque mois, avec des conséquences dramatiques pour leur santé, pour leur développement affectif. Et si nous voulons éviter de sacrifier une nouvelle génération qui va subir les conséquences de cette exposition précoce à des contenus évidemment inappropriés, mais parfois aussi extrêmement violents...
Sacrifier une génération, pardon, c'est des termes qui sont forts tout de même.
C'est vrai, mais la littérature scientifique s'est accumulée pour démontrer que l'exposition précoce de nos enfants à la pornographie a des conséquences de long terme sur leur relation à l'autre, sur leur pratique sexuelle, sur leur santé mentale. Et donc, il y a de toute évidence le risque qu'une génération se trouve sacrifiée si nous ne faisons rien. C'est la raison pour laquelle, comme le Royaume-Uni, nous avons décidé de confier à l'ARCOM, qui est le gendarme de l'audiovisuel et des médias, le pouvoir d'ordonner le blocage des sites pornographiques qui ne vérifieront pas l'âge de leurs utilisateurs. Et nous avons proposé que l'ARCOM rédige un référentiel, c'est-à-dire une liste d'exigences techniques minimales pour que cette vérification de l'âge soit à la fois fiable, qu'elle permette effectivement de discriminer les adultes des enfants, contrairement à ce qui existe aujourd'hui, où une simple question est posée, avez-vous plus ou moins de 18 ans ? Évidemment que ça n'est pas fiable. Et puis d'autre part, qu'elle garantisse le respect des données personnelles et de la vie privée.
Oui, parce qu'il me semblait que c'était ça qui avait bloqué quand même. Alors quand vous dites que ce n'est pas tout à fait vrai sur la Grande-Bretagne et l'Australie, ça veut dire qu'elles continuent à mettre en place, elles vont continuer à mettre en place ces outils de leur combat pour faire fermer les sites pornographiques aux mineurs ?
Absolument. Le Royaume-Uni a adopté un texte qui est quasiment identique à celui que nous sommes en train d'adopter en France et d'autres pays européens. J'ai pu le constater lundi dernier en Espagne où je rencontrais mes homologues, sont très intéressés par la piste ouverte par la France et souhaitent l'engager à leur tour, s'y engager à leur tour.
Parce que l'enjeu, on le comprend, c'est que si il faut vérifier l'âge des utilisateurs des sites pornographiques, ça veut dire qu'un adulte, par exemple, pour prouver qu'il est adulte, doit donner des papiers d'identité. Et c'est là où ça pose des problèmes concernant la préservation de nos libertés et de circulation au sein de l'espace numérique, qui est, je l'ai dit en introduction, est dans les fondamentaux de notre culture du numérique.
Absolument. Et imposer un contrôle d'identité à l'entrée des sites pornographiques serait une obligation démesurée par rapport à la privation de liberté numérique que cette mesure suppose. C'est la raison pour laquelle, dans ces exigences techniques minimales que l'ARCOM va publier, eh bien, elle précisera un certain nombre de règles de base, d'abord, pour que cette vérification soit fiable et qu'elle soit respectueuse des données personnelles de la vie privée.
Et comment elle peut être respectueuse, pardon, comment ?
Et elle indiquera aux sites pornographiques qu'ils peuvent proposer diverses solutions qui répondent à ces critères minimaux, ainsi qu'au moins une solution répondant à ce que l'on appelle le double anonymat. Mmh. Qu'est-ce que c'est le double anonymat ? Eh bien, c'est un système qui garantit que l'organisme qui vous fournit une preuve anonyme de votre majorité, ce peut être votre banque, ce peut être votre opérateur télécom qui va transférer sur une application téléchargée sur votre téléphone une preuve anonyme de majorité, ne sait pas ce pourquoi elle sera utilisée. Et quant au site réservé aux adultes qui va solliciter de votre part, au moment de votre connexion, la preuve anonyme de majorité, eh bien, il ne saura pas qui vous êtes. Autrement dit, le fournisseur de la preuve anonyme de majorité est aveugle sur la destination de cette preuve et le site pornographique est aveugle sur l'identité de l'utilisateur. Voilà pourquoi on appelle ça un double anonymat. L'ARCOM demandera à ce qu'au moins une des solutions proposées par les sites respecte ce principe-là qui garantit la protection absolue de la vie privée, mais libre aux sites qui le souhaitent de proposer d'autres solutions un peu moins protectrices et libre aux utilisateurs de choisir la solution qui leur convient.
Voilà, s'il faut photographier son passeport et que la personne souhaite le faire, ça sera par exemple un dispositif.
À condition que ce dispositif respecte les critères minima et par exemple, l'ARCOM dans son référentiel veillera à ce qu'il y ait bien un tiers. Il ne s'agit pas que des sites pornographiques se mettent à collecter les pièces d'identité des Français. En revanche, que via un tiers qui soit suffisamment sécurisé.
Un tiers de confiance.
Il y ait une vérification d'âge qui passe par une présentation de la pièce d'identité, ça peut faire partie des solutions. Mais ça n'est pas une solution de double anonymat. Pour avoir un double anonymat, il faut deux tiers. Celui qui fournit la preuve d'identité et celui qui va la réceptionner pour ensuite la transmettre sur le site concerné.
Et ça existe ailleurs, justement, ce dispositif de double anonymat ?
Ce dispositif est expérimenté actuellement par des entreprises françaises qui ont conçu des applications de ce type et qui ont établi des partenariats avec des sites pornographiques pour tester ces solutions-là. C'est une première tentative. Beaucoup de pays dans le monde sont à la recherche de la bonne solution. C'est moins un défi technique, d'ailleurs, il faut le dire. Hein. C'est moins un défi technique qu'un défi économique. Parce qu'en réalité, ce qui est difficile à surmonter, lorsqu'on a bien un double anonymat, eh bien, c'est la manière dont on va facturer le site qui utilise la solution de double anonymat, puisque par définition, et on ne sait pas d'où viennent les utilisateurs, et celui qui a, au début de la chaîne, a fourni la preuve anonyme de majorité, ne sait pas où elle est partie. Et donc, il faut trouver la manière de rendre tout cela soutenable économiquement, et c'est là que se situe la difficulté, non pas sur le plan technique.
Un dernier point sur l'ARCOM. Donc, si j'ai bien compris, lorsque sera pointé du doigt un site pornographique qui ne respecte pas ces nouvelles règles, il sera sanctionné. Il aura une amende et ça, je crois qu'il pourra même être fermé, le cas échéant. Et ça, je crois que c'est l'ARCOM maintenant qui en a le pouvoir, alors que précédemment, ça pouvait être un juge. Certains ont pointé justement cette dérive un peu de confier à une institution un pouvoir qui jusque-là était un pouvoir réservé à une autorité judiciaire.
Et ces inquiétudes sont légitimes. Chaque fois que le juge est dessaisi au profit d'une autorité administrative, il faut vraiment se demander si on n'est pas en train de porter une atteinte disproportionnée aux libertés et aux libertés numériques. Dans le cas de la vérification d'âge sur Internet ou sur à l'entrée des sites pornographiques, en réalité, ce que l'on confie à l'ARCOM, c'est le soin de vérifier si oui ou non un site a mis en place une vérification d'âge. Il n'y a pas d'interprétation à faire, il y a une simple vérification à faire. Et donc, dans un cas comme celui-ci, dessaisir le juge me paraît être pertinent. Il n'est pas nécessaire d'aller solliciter la capacité d'expertise du juge, son indépendance, son impartialité, sa capacité à mobiliser la jurisprudence pour vérifier si oui ou non un site pornographique a mis en place un simple outil de vérification d'âge. Parce que tout ça est très simple et je vais vous le dire, c'est absolument scandaleux que les sites pornographiques n'appliquent toujours pas la loi et s'abstiennent toujours de mettre en place des dispositifs aussi simples et qui auraient pour effet de préserver des millions d'enfants de cette exposition précoce au contenu pornographique.
Voilà, c'est très clair, on sent votre détermination. Je peux même citer une de vos déclarations. S'ils persistent, nous les ferons plier, nous les mettrons à genoux, avez-vous dit, sur le plateau de France Télévisions. Je crois que c'était France 2. Le deuxième point, enfin un autre point, concerne la lutte contre le cyberharcèlement. Là aussi, il faut trouver les bonnes modalités pour punir ceux qui, évidemment, insultent, attaquent, propagent la haine sur les réseaux. On le sait, ça peut parfois aller jusqu'à des conditions et des situations dramatiques. Et pour cela, je vais vous faire entendre une question qui vient du juriste Bastien Le Quérec de la Quadrature du Net, que vous devez évidemment connaître, une association de protection citoyenne et de nos libertés. On l'écoute.
Bonjour Monsieur le Ministre. Le projet de loi SREN prévoit une peine de bannissement des réseaux sociaux pour les personnes condamnées pour cyberharcèlement, qui verront leur compte désactivé par les plateformes et qui n'auront pas le droit de s'en recréer un. Surtout, sont prévues des sanctions pour les plateformes qui auraient échoué à empêcher un internaute banni de se recréer un compte. Sauf qu'il n'est pas aisé techniquement d'empêcher la création d'un nouveau compte sur une plateforme. Les réseaux sociaux pourraient bloquer l'adresse IP de l'internaute, mais le contournement de ce blocage est enfantin. La seule solution technique fiable serait de vérifier l'identité civile de chaque internaute voulant se créer un compte pour la comparer à la liste des personnes bannies. Pourtant, vous aviez exprimé votre opposition aux amendements du rapporteur général Paul Midi qui voulait imposer à chaque internaute de s'identifier avant de pouvoir se créer un compte sur un réseau social. Dès lors, comment, monsieur le ministre, comptez-vous demander aux réseaux sociaux de s'assurer qu'une personne bannie ne se recrée pas un compte sans obligation généralisée de révéler son identité civile aux plateformes ?
Voilà la question que vous avez posée.
C'est une excellente question. Je le redis, si nous avons décidé d'introduire dans le projet de loi une mesure de bannissement des réseaux sociaux, hein, qui est une mesure assez inédite de privation par avance de liberté d'expression, c'est en écoutant les streameuses, ces créatrices de contenu en ligne, victimes constamment de raids de cyberharcèlement, qui nous ont témoigné d'avoir été choqués de voir réapparaître régulièrement des auteurs, ou en tout cas des cyberharceleurs qui les avaient déjà cyberharcelés, qui s'étaient fait renvoyer des plateformes et qui revenaient s'inscrire ensuite. Et c'est cela qui nous a conduit à réfléchir, à introduire dans le texte cette mesure de bannissement des réseaux sociaux pendant une durée de 6 mois. Je précise, le bannissement du réseau social sur lequel a été commis l'infraction, le délit, pendant 6 mois, qui peuvent être portés jusqu'à 1 an en cas de récidive. Le texte, contrairement à ce qui était dit à l'instant, ne prévoit que la plateforme suspend le compte de l'auteur, ce qui est déjà une très bonne chose, parce que vous avez parmi celles et ceux qui s'adonnent au cyberharcèlement des personnes qui le font sous couvert d'un pseudo, mais vous en avez d'autres qui le font à visage découvert, avec des communautés très vastes qui conduisent à faire retentir ou à accélérer ou à amplifier les phénomènes de cyberharcèlement. Cette peine de bannissement confisquera leur notoriété en suspendant leur compte. Donc ils peuvent se récréer un compte, mais au moins l'effet de communauté n'apparaîtra pas.
C'est ce que dit, je crois, le sens de la question, en disant que c'était assez facile, effectivement, de se recréer un autre compte, en passant même par un autre outil, etc.
Et oui, mais si vous n'avez plus votre communauté, celle qui vous suivait, celle qui relayait vos appels au cyberharcèlement de telle ou telle personne...
Oui, vous atténuez un peu la vague.
Vous atténuez. Ensuite, le texte prévoit que les plateformes doivent mettre en œuvre des moyens pour éviter que la personne se crée d'autres comptes sur la même plateforme. Et ça soulève quelques inquiétudes. Alors je veux répondre d'abord que les plateformes le font déjà, parce qu'elles ont des conditions générales d'utilisation, dans l'immense majorité des cas, qui prévoient que si vous vous comportez mal, ou si vous violez ces conditions générales d'utilisation, elles peuvent vous expulser et, dans certains cas, prendre des mesures pour éviter que vous vous réinscriviez.
Ce qui arrive assez peu quand même, quand on est justement dans l'usage, quand on voit le nombre de déferlements qu'il y a sur ces plateformes de haine, de propos haineux, etc., on voit que quand même, c'est un peu léger, cette action des plateformes.
Ça dépend. Vous avez effectivement, et je précise que il y a sur Internet beaucoup plus de citoyens de bonne foi et animés par des intentions qui sont bonnes et positives.
Oui, mais on les entend moins, c'est le problème.
Et une minorité d'internautes qui sèment la haine et la violence. Ce que je veux dire par là, c'est que le projet de loi prévoit une obligation de moyens, mais qui n'est pas sanctionnée par une amende, puisque précisément nous voulions éviter à la fois une obligation de surveillance trop forte, et nous voulions également éviter d'enfreindre le droit européen. Mais ce que je voudrais dire, c'est que dans l'examen du projet de loi, on a ajouté une disposition à l'Assemblée nationale qui est très importante, c'est que l'auteur qui contournera le bannissement et se réinscrira sur la plateforme sera passible d'une peine de 30 000 euros d'amende et de 2 ans d'emprisonnement. Donc, certes, il n'y a pas une contrainte trop forte imposée à la plateforme pour éviter la réinscription, mais je le répète, elle le fait déjà. Et d'autre part, l'auteur qui voudra contourner la peine de bannissement prononcée par le juge s'exposera à une peine particulièrement lourde.
Dans la question a été évoqué aussi l'un des amendements de Paul Midi qui voulait une généralisation d'identité numérique pour tous les Français, qui pourrait donc effectivement régler de manière assez certaine ce problème-là. Vous n'y étiez pas favorable, j'imagine, pour préserver du moins... Alors, c'est toujours compliqué avec la question de l'anonymat en ligne, parce qu'effectivement, il n'y a pas d'anonymat en ligne. Lorsqu'il y a une procédure judiciaire et lorsqu'il y a des manquements graves, on peut toujours retrouver la personne qui se cache derrière un pseudo ou autre. Il y a des affaires médiatiques qui l'ont prouvé. Néanmoins, on voyait quand même sa tendance, qui était une tendance de transparence, finalement, de identité, qu'il fallait toujours essayer de s'affirmer tel qu'on est, avec notre nom, etc. Ça, on est d'accord. Enfin, vous y étiez plutôt défavorable.
Ce à quoi j'étais favorable, et que le gouvernement a soutenu, c'est l'idée de se donner des objectifs ambitieux pour le développement de l'identité numérique en France. Parce que je considère que le développement de l'identité numérique est un moyen de faciliter pour nos concitoyens l'accès aux services publics et l'accès aux droits. Je crois que nous sommes en retard sur ce sujet-là et que les objectifs fixés par l'un des amendements proposés par Paul Midi nous donnent un objectif ambitieux mais indispensable à atteindre si nous voulons, comme c'est le cas dans d'autres pays, élargir ou faciliter ou simplifier l'accès de nos concitoyens aux services publics et aux droits. Là où nous sommes en revanche opposés, c'est sur la proposition d'imposer à celles et ceux qui souhaitent s'inscrire sur un réseau social l'obligation de se certifier auprès d'un tiers désigné par le ministère de l'Intérieur. Nous nous y sommes opposés car c'est une disposition qui est contraire aux engagements européens de la France et en particulier aux équilibres trouvés l'année dernière au niveau européen dans la discussion sur le règlement sur les services numériques, le DSA, qui était évoqué dans votre introduction, mais aussi parce que c'est une disposition qui risquait de fragiliser la confiance que l'on peut avoir dans le numérique. On n'imagine pas demander à un journaliste ou à un opposant politique ou un lanceur d'alerte de n'accéder aux réseaux sociaux qu'après s'être certifié auprès d'un tiers désigné par le ministère de l'Intérieur. Ce qui ne doit pas nous empêcher effectivement de lutter contre ce que le député pointait du doigt, c'est-à-dire ce sentiment d'impunité qui fait que, bien que l'anonymat n'existe pas sur Internet, beaucoup continuent de penser que l'anonymat existe. Et de rappeler constamment que lorsque des délits sont commis, que ce soit du cyberharcèlement contre des personnalités comme Mila, comme Oshi ou comme Eddy de Pretto, lorsque ce sont des délits comme ceux qui ont été commis pendant les violences urbaines du début du mois de juillet, ou lorsque ce sont des délits qui de propagation, par exemple, ou d'apologie du terrorisme comme ceux qu'on a connus dans ces dernières semaines, eh bien, on peut toujours retrouver les auteurs, même derrière un pseudo, même derrière un VPN. On peut les retrouver, on peut les traduire en justice et ils peuvent être condamnés.
Voilà. Après, il faut effectivement qu'une procédure judiciaire soit lancée, on est d'accord. Si des personnes qui nous écoutent se font cyberharceler, il faut donc bien intenter une action en justice. Il faut être un peu patient, évidemment, parce que le temps de la justice est toujours un peu plus lent que le temps de la technologie, et encore plus que ce temps de souffrance qu'est celui lorsqu'on est victime de cyberharcèlement. Vous avez évoqué justement l'artiste Eddy de Pretto, donc qui lui avait subi une campagne de haine homophobe et autres, et donc il a intenté une action en justice et donc il a obtenu gain de cause. C'est ça, vous avez pu, dans cette affaire-là, la justice
a
retrouvé.
Des peines de prison ont été prononcées. La nouveauté que permettra ce projet de loi, eh bien, c'est en plus de la, c'est deux choses. C'est d'abord qu'en plus de la condamnation, si le juge l'estime pertinent à une peine de prison ou de prison avec sursis, le juge pourra prononcer une peine de bannissement du réseau social pendant une période de 6 mois. Et si le juge l'estime nécessaire, alors avant même la condamnation, au début du contrôle judiciaire, c'est-à-dire au moment où l'enquête débute, le juge de la liberté de la détention ou le juge d'instruction pourra prononcer cette peine avant même d'attendre la condamnation.
D'accord. Eddie Depreto, vous l'avez cité en premier, on va le jouer tout de suite dans Le Meilleur des Mondes avec ce titre, Freaks.
France Culture, Le Meilleur des Mondes, François Saltiel.
Rien à faire d'être dans le coup, je préfère nager chelou en tant que victime. Avec moi et mes peines orphelines, laisser les gens parler dans le fond. Gars, laisse-moi là dans le flou, tu verras, je peux faire de grandes choses avec mon spleen. Pas besoin de faire comme tous ceux qui se confondent, j'ai de l'or dans mon moleskine. À refaire, je ne serai pas celui qui se plie pour tenter de plaire. Je serai celui hors des critères qui choisit son temps. À refaire, je serai plutôt celui qui se met en avant et fier. Ce qu'on n'a pas voulu faire de lui. C'est trop longtemps laissé taire. À tous les bizarres, oh, les étranges, oh, les bâtards. À tous les monstres, ceux qui dérangent les mises à l'écart. À tous les parias, oh, les exclus, oh, sans égard. À tous les seuls, ceux dans leur chambre, toujours dans le noir. Freeze, freeze. Quand je nage dans les rues, as-tu vu mes écorces là, qui me protègent à mon insu? Vu scintiller mes balafres contre les casses, toi tu pues. Moi je ne marche plus à l'ombre, moi je ne marche plus à l'ombre. J'ai mis dans les magazines toutes mes tares qu'on se le dise. Je compte encore m'en servir, les remettre dehors que ça brille. À tous les bizarres, oh, les étranges, oh, les bâtards. À tous les monstres, ceux qui dérangent les mises à l'écart. À tous les parias, oh, les exclus, oh, sans égard. À tous les seuls, ceux dans leur chambre, toujours dans le noir. Freaks, freaks.
Et voilà, Eddie Depreto avec Freaks. Et oui, pendant cette musique, on écoutait assidûment, nous étions en train de converser et de parler justement de des liens entre la Commission européenne et aussi la législation française, parce que on voit que c'est pas forcément toujours simple. À ce sujet, il y a une question qui nous a été adressée par Jean Massier, que vous connaissez sans doute, qui est un streamer qui œuvre sur Twitch. Comme nous avons notre chaîne Twitch. D'ailleurs, de manière hebdomadaire, il essaye de vulgariser les enjeux et les questions parlementaires. Donc il connaît assez bien la loi et il aimerait vous poser cette question.
Bonjour Jean-Noël Barrot. Récemment, le commissaire européen Thierry Breton a envoyé une lettre incendiaire à la France qui ne respecte pas le droit européen sur le numérique. L'Union européenne reproche à la France d'avoir fait cavalier seul en légiférant dans son coin pour restreindre encore un peu plus les droits des internautes. Ma question est donc simple, allez-vous abroger la loi sur les influenceurs comme le demande la Commission européenne ?
La réponse est non, mais pas de panique, cher Jean, car le texte visant les influenceurs ne vient pas limiter les libertés sur Internet, mais plutôt prévenir un certain nombre d'abus. D'abus qui ont d'ailleurs fait l'objet d'un certain nombre de contrôles du gendarme de la consommation et de la répression des fraudes qu'on appelle la DGCCRF, qui a contrôlé une petite centaine d'influenceurs depuis à peu près un an, qui a établi qu'une moitié d'entre eux s'étaient adonnés à des pratiques qui sont illégales dans notre droit et qui a, si l'on peut dire, émis des injonctions à certains d'entre eux qui ont d'ailleurs dû publier qui s'étaient sur leur compte, qui s'étaient adonnés à des pratiques illégales. Ensuite, la Commission européenne a vu que la France avait, à l'initiative d'un certain nombre de parlementaires, pris ces dispositions, dont une partie, venait empiéter, si l'on peut dire, sur le nouveau règlement sur les services numériques adopté l'année dernière pendant la présidence française de l'Union européenne, porté par la France, et a demandé à la France, de faire le tri entre les dispositions de cette loi sur les influenceurs qui n'empiètent pas sur le règlement européen et qui méritent de continuer à exister, et celles qui empiètent et qui doivent donc être retirées au profit des règles européennes qui désormais s'appliquent. Et donc, ce que Bruno Le Maire a décidé, c'est que nous allions en quelque sorte suivre cette recommandation-là. Et dans les semaines qui viennent, une nouvelle mouture de ces règles qui s'imposent aux influenceurs va être
examinée. Ah, donc il y aura bien des changements, effectivement. Donc la loi ne va pas être abrogée, elle va être modifiée.
Elle va être modifiée dans ces parties qui se superposaient aux règles européennes pour faire en sorte qu'elles soient bien conformes à ces règles.
Parce que si j'ai bien compris, le problème, c'est que lorsqu'il y a un règlement européen, prenons le cas du DSA, il faut peut-être dans un premier temps attendre qu'il soit appliqué dans tous les pays d'Europe, un peu en même temps, et ensuite peut-être faire des ajustements pays par pays. Or là, on reproche à la France, je disais en introduction, cavalier seul, dans une métaphore un peu filée, sur le Far West et le Western, mais d'avoir un peu trop devancé, de ne pas avoir attendu, finalement, suffisamment longtemps que ce texte rentre en application.
Oui, ou alors de s'être montré un peu plus précise ou un peu plus exigeante sur certaines règles déjà prévues au niveau européen. Or, effectivement, vous savez, au niveau européen, il y a deux types de lois. Il y en a qu'on appelle les directives. C'est un texte générique que chaque pays va transposer un peu à sa manière, mais en restant dans l'esprit du texte. Et puis, il y a des règlements qui, contrairement aux directives, s'appliquent partout, automatiquement. Et dans cette proposition de loi qui était portée par des parlementaires, il y en a des morceaux, si l'on peut dire, qui venaient reprendre, sans le reprendre exactement, les termes de ce règlement. Et donc la Commission a dit, je comprends votre intention, mais vous ne pouvez pas réécrire ce que l'Europe a décidé de faire. Enfin, l'Europe, la démocratie européenne a décidé de faire.
Et sur SREN, donc il y a eu un avis justement de la Commission européenne ?
On a reçu ce matin l'avis de la Commission qui valide l'essentiel de notre projet de loi, qui demande quelques petits aménagements. Les députés et sénateurs qui ont chacun de leur côté adopté le texte ces derniers mois vont se retrouver, comme d'habitude, au Parlement pour essayer de se mettre d'accord dans ce qu'on appelle une commission mixte paritaire.
En décembre, je crois.
Absolument. 7 députés, 7 sénateurs. Il leur appartiendra, à ce moment-là, quand ils vont se retrouver en décembre, de faire ces menus ajustements au projet de loi SREN pour qu'il soit parfaitement conforme au droit européen.
Et on entend que LFI, qui faisait beaucoup partie des réfractaires justement de l'adoption de la loi à l'Assemblée nationale il y a une quinzaine de jours, envisageait de saisir le Conseil constitutionnel.
Je n'ai pas de difficulté avec ça, puisque je dis depuis le départ que les deux lignes rouges que je me suis fixées lorsque j'ai présenté ce projet de loi au Sénat puis à l'Assemblée, c'était le respect de la Constitution d'un côté et le respect du droit européen de l'autre.
Vous les comprenez, ces craintes, juste sur le respect de la Constitution ? Vous comprenez, justement, on a écouté la quadrature du net tout à l'heure, des citoyens, des gens qui s'inquiètent, justement, de nos libertés menacées, parce qu'on a l'impression qu'il y a une tendance, quand même, qui arrive avec de plus en plus de contrôle. D'ailleurs, l'acronyme de votre loi est clair, sécuriser, réguler. On voit qu'il y a quand même beaucoup d'approches punitives aussi qui sont employées. Vous parlez de bannissement, d'exclusion, de fermeture. Donc, vous comprenez ces inquiétudes ? inquiétude ?
Je les comprends, mais d'un autre côté, pour revenir à la discussion qu'on avait au départ, ce que je constate au quotidien, c'est que toutes ces insécurités que rencontrent les Français sur Internet finissent par saper leur confiance dans le numérique. Et moi, je veux éviter que l'on se trouve dans une situation dans quelques années dans laquelle, en raison de ces insécurités, en raison peut-être de l'empreinte carbone du numérique ou de la perception de cette empreinte carbone, en raison des coûts associés à l'équipement en outils numériques et à leur cybersécurité, eh bien qu'on ait une partie de nos concitoyens qui se détourne complètement de cet outil dont je pense que pourtant il peut beaucoup apporter pour le développement de l'homme et le développement de la société, le développement de la démocratie. Alors, pour ça, il faut évidemment apporter un certain nombre de corrections, et je crois que celles que nous avons prévues dans cette loi sont proportionnées. On a veillé à chaque étape à préserver les libertés publiques, préserver les libertés numériques, et chaque fois, notamment, qu'on a dessaisi le juge au profit de l'ARCOM, ça n'était que pour faire pour prendre des décisions sur le fondement de mesures de vérification.
Un peu un côté un peu exécutif.
Arbitraire,
voilà.
Binaire. Sans outrepasser le juge pour des décisions qui appellent une interprétation, un jugement indépendant, impartial, une connaissance de la jurisprudence, parce que ça, à mon avis, il faut évidemment le préserver coûte que coûte.
Vous avez raison, vous avez employé le terme de la confiance. En fait, tout est là. Parce que confiance dans les acteurs du numérique, mais confiance en l'État aussi. Est-ce que toutes les craintes, finalement, par rapport à la menace de nos libertés, c'est la confiance que l'on accorde, justement, à l'État, de ce qu'ils vont faire de nos données, etc.
Alors, l'État, dans l'affaire, il va rien récupérer du tout avec ce projet de loi, puisque tout ce qui est prévu, c'est de donner des pouvoirs à des autorités administratives indépendantes, sur lesquelles l'État n'a pas vraiment de prise, ou pas de prise directe, d'alourdir des sanctions qui sont entre les mains des juges, sur lesquelles l'État n'a pas ou n'a pas de prise directe. Donc l'État lui-même...
Vous allez dire n'a pas ou n'a peu, c'est ça?
Non, ben, il n'a pas de prise directe sur les juges, en tout cas. Et donc, il n'y a pas de risque avec ce projet de loi d'un État d'avancer dans la direction d'un État
De
surveillance. Et moi, j'y ai veillé personnellement. Je suis très attaché aux libertés publiques, aux libertés individuelles. Je n'aurais pas supporté des mesures dont je jugeais qu'elles n'étaient pas proportionnées. Mais la liberté des uns s'arrêtant là où commence celle des autres, on est bien obligé aussi de mettre un certain nombre de limites à ce qui peut être fait sur Internet dès lors qu'on vient enfreindre les lois que nous nous sommes démocratiquement données.
Je vais vous faire écouter maintenant une autre question, une voix féminine, celle d'Anne Cordier, qui est enseignante chercheuse en sciences de l'infocom à l'université de Lorraine, et qui, au-delà justement de ces mesures, on va dire punitives, a une question à la marge à vous poser.
Monsieur le ministre, je comprends bien évidemment le souci gouvernemental de répondre aux inquiétudes quant à la viralité de messages notamment haineux. Comment cette sécurisation et régulation de l'espace numérique, pour reprendre les termes de la loi SREN, est-elle compatible avec une éducation au numérique qui garantisse les libertés tant individuelles que collectives et ne soit pas une éducation contre, mais bien pour le numérique, affirmant une conception proactive et, j'ose le mot, joyeuse, de l'espace numérique? Je vous remercie de votre réponse.
Excellente question. Je suis parfaitement d'accord avec le diagnostic qui rejoint ma préoccupation quotidienne de discerner ce qui, dans l'outil numérique, doit nous permettre de vivre une vie meilleure, plus joyeuse, mieux connectée avec nos semblables, avec nos prochains, plutôt que de mettre entre nos mains des outils numériques qui nous isolent, qui nous enferment et qui nous assignent dans une forme d'attitude passive au monde. Et cela, ça commence par l'éducation à l'école, bien sûr, mais plus généralement, une éducation populaire qui s'adresse à nos concitoyens, quel que soit leur âge, et qui leur présente le numérique dans ses dimensions créatives, communicatives, et ses capacités à nous faire découvrir ce que nous ne connaissons pas suffisamment bien. La première étape de ce travail-là a été d'offrir ce que l'on peut appeler une garantie humaine. En 2021, pendant le plan de relance, mon prédécesseur a initié un programme qui est celui des conseillers numériques, 4000 conseillers déployés sur l'ensemble du territoire et dont la vocation et la mission est d'accompagner les personnes éloignées du numérique vers l'autonomie, vers l'appropriation de ces usages positifs pour leur vie et pour leur quotidien. Ce que nous avons fait depuis, nous avons signé un accord important la semaine dernière pour le concrétiser, c'est de créer la gouvernance locale de cette politique de lutte contre l'éloignement numérique dans quelques mois. Dans tous les territoires de France, dans tous les départements de France, vous aurez une collectivité, souvent le département, mais pas nécessairement, qui deviendra le chef de file de cette politique d'inclusion numérique et qui coordonnera l'effort de toutes celles et ceux qui, d'une manière ou d'une autre, participent de cette promotion d'un numérique joyeux, d'un numérique qui nous rapproche et qui nous fait découvrir le monde dans toute sa richesse et dans toute sa diversité. Je pense que c'est indispensable, sinon nous ne saurons pas convaincre nos concitoyens des bienfaits ou de la nécessité d'avancer toujours plus dans une société numérique s'ils ont le sentiment que cette société numérique leur gâche la vie plutôt que de la rendre meilleure.
Voilà, effectivement, et merci aussi pour cette petite référence du meilleur des mondes. Vous avez repris donc le terme de joyeux qui a été cité par Anne Cordier, je renvoie d'ailleurs à son ouvrage Grandir Connecté, une ressource qui permet également eh bien de mieux comprendre, apprendre, décrypter les outils du numérique. D'ailleurs, je remarque sur la question du cyberharcèlement qu'il y a d'autres mesures qui ne sont pas que des mesures punitives. On parle justement de cours d'empathie qui pourraient avoir lieu au début de l'année 2024, un peu sur le modèle danois, cette idée de se mettre à la place de l'autre, de comprendre aussi pourquoi, quelles sont les pulsions parfois qui nous poussent à harceler, parfois d'ailleurs on harcèle sans le savoir. On sait aussi souvent que la personne harcelée peut devenir un harceleur dans la séquence suivante. Donc tout ça, c'est intéressant aussi d'essayer d'en discuter, de le comprendre au-delà juste de la simple sanction.
Absolument. Et le numérique doit pouvoir aider à cela. Le numérique et les outils numériques doivent être des vecteurs à tous les âges de la vie, de créativité, de création, qui est l'activité par excellence d'épanouissement, d'émancipation de la personne humaine, de rapprochement des hommes et des femmes les uns avec les autres, et une nouvelle fois, de découverte de toutes les richesses que recèle notre monde. Mais pour cela, il faut savoir les utiliser d'abord. Donc ça, c'est l'éducation. Il faut aussi que nous puissions disposer de nos propres outils. Parce qu'en réalité, ce qui fait le dévoiement des outils, c'est aussi la manière dont ils ont été conçus. On peut réguler, comme nous le faisons aujourd'hui avec ce projet de loi, mais celui qui, au fond, a le plus d'influence sur l'outil numérique et la manière dont il va être utilisé, c'est celui qui l'a conçu. Et alors que se présente devant nous une vague nouvelle qui est celle de l'intelligence artificielle générative, je dois dire que ma conviction est faite que la priorité absolue qui doit être la nôtre, c'est que ces modèles qui vont s'inviter partout dans nos quotidiens, dans nos entreprises, dans nos administrations, dans nos familles, soient conçus en Europe, car leurs concepteurs injecteront de manière organique, de manière native, dans ces modèles, notre conception européenne du monde, de l'homme, des droits d'auteur, de la vie privée. C'est cela dont nous avons besoin, sans quoi, dans 10 ans, nous referons une émission ensemble pour le meilleur des mondes et une nouvelle fois, nous nous lamenterons d'avoir de peiner à réguler des outils qui ont été conçus ailleurs.
Serez-vous encore dans 10 ans ministre du numérique?
Peut-être pas.
Voilà, peut-être pas. L'avenir nous le dira. Mais vous, quand vous parlez d'outils, et on a quasiment ouvert cette émission avec le téléphone portable, je vous demandais la marque, vous m'aviez dit Samsung, donc un acteur étranger. On voit bien qu'on manque d'outils européens.
Les Fairphone.
Oui, mais vous n'en avez pas un.
Pas encore, mais vous savez, il ne faut pas renouveler son téléphone, son smartphone trop souvent. D'ailleurs, la recommandation, si on veut simplement contenir l'empreinte carbone du secteur du numérique à l'horizon 2030, c'est de conserver nos équipements 2 ans de plus que ce qu'on ne l'aurait fait par le passé.
Donc, je suis bien d'accord avec vous et je n'ai pas de Fairphone non plus, même si je sais que je devrais en avoir un, mais vous voyez que vous comme moi, on n'a pas de Fairphone, vous avez un Samsung, un Apple. Donc,
vous avez un Apple, oui. Et moi j'ai un Samsung, on va les garder les plus longtemps possible et ensuite on achètera un Fairphone.
Et au niveau des outils, puisque vous avez dit quelque chose de très intéressant, vous dites voilà, il faut de toute façon en être propriétaire pour véritablement avancer, puisqu'on sent, on sait bien que c'est un peu là. C'est très dur de réguler quelque chose qu'on n'a pas fabriqué non plus.
Exactement.
Donc la question du cloud revient aussi très régulièrement dans les débats. Aujourd'hui, on est encore dépendant d'Amazon, on est dépendant de Microsoft, on n'arrive pas à développer également un cloud souverain. Alors parfois, ça fait même sourire, puisqu'on parle de souveraineté technologique, mais on parle de souveraineté technologique avec Jeff Bezos. Donc là encore, on voit qu'on a pris du retard. Donc qu'est-ce qu'on se dit? On se dit justement, bah, sur la question du cloud, comme sur les outils, c'est foutu, acceptons l'idée d'avoir un Samsung, j'ai que je caricature. Et puis par contre, sur l'intelligence artificielle, avançons. Mais déjà sur le premier point...
Non, mais vous savez que c'est pire que ce que vous dites. Nos dépendances passées sont en train de créer nos dépendances à venir. Je m'explique. Nous ne baisserons pas les armes et nous allons lutter pied à pied pour devenir maître et possesseur de l'intelligence artificielle générative. Mais si nous allons devoir lutter pied à pied alors que nous avons en France et en Europe les meilleurs chercheurs du monde, c'est parce que ces mêmes acteurs qui ont dominé les marchés numériques depuis 10, 15, 20 ans sont ceux qui aujourd'hui investissent massivement tous les profits accumulés pendant ces 10, 15, 20 dernières années pour être les maîtres et possesseurs de l'intelligence artificielle générative. Nous n'allons pas les laisser faire parce que nous avons les meilleurs talents, mais aussi parce que nous nous sommes réveillés enfin. Et que l'année dernière...
Les meilleurs talents, excusez-moi, j'en ai le barreau, monsieur le ministre, qui sont à l'étranger, hein, principalement, pour beaucoup.
Ah, ils sont en train de revenir. Ils sont en train de revenir et nous avons eu la surprise ces derniers mois de voir non seulement des jeunes gens qui avaient fait leur doctorat dans nos meilleures universités, qui avaient été recrutés dans les laboratoires de recherche des géants du numérique, revenir en France pour créer leurs propres entreprises, grande satisfaction, entreprises qui entendent rivaliser avec les ChatGPT de ce monde. Mais nous voyons aussi des entrepreneurs américains décider de choisir la France pour y établir leur propre entreprise de développement de ces modèles-là, parce que c'est en France qu'ils peuvent trouver les meilleurs talents et qu'ils peuvent trouver aussi un mix décarboné, un mix énergétique décarboné.
Oui, on voit que c'est ce qu'on appelle un avantage concurrentiel, justement, ce mix décarboné.
Mais on ne doit pas s'arrêter à soutenir nos innovateurs, on doit aussi casser les monopoles. Et c'est ce qu'on est en train de faire avec ce règlement européen, l'autre, si je puis dire, que vous avez cité dans votre introduction tout à l'heure, qui est le règlement sur les marchés numériques, qui va mettre fin à des pratiques commerciales déloyales que ces géants du numérique ont utilisées depuis 15-20 ans pour établir leur situation de domination absolue, créant vis-à-vis de l'Europe un lien d'assujettissement. Ces pratiques déloyales, j'en cite une. Il sera interdit désormais dans l'Union européenne de commercialiser un smartphone sur lequel aura été préinstallé un navigateur, un moteur de recherche ou un assistant personnel. C'est indispensable parce que c'est une pratique qu'on appelle de vente liée, de vente groupée, qui empêche évidemment le développement Europe d'un moteur de recherche. Quand Samsung ou Apple dominent le marché des smartphones et qu'ils ont préinstallé un navigateur ou un moteur de recherche qui n'est pas européen, bon courage pour... Donc ça sera terminé.
Exactement.
Et nous allons faire la même chose sur le cloud, puisque avec le projet de loi, nous anticipons sur un autre règlement européen qui est en cours de finalisation et qui va lui aussi interdire un certain nombre de pratiques qui ont permis à ces géants du cloud d'établir un véritable oligopole sur les marchés mondiaux et en particulier sur les marchés européens.
Voilà, qui nous rendent donc dépendants encore aujourd'hui à ces différents clouds. Et juste pour terminer, je remarque quand même que toute cette volonté de casser des monopoles n'est pas qu'européenne. On peut citer en ce moment des procès qui ont lieu aux États-Unis également contre Apple, contre Microsoft et qui eux aussi s'attellent à casser ces monopoles-là. Après, entre encore une fois le temps de ces juridictions qui sont très longues avec des services juridiques très compétents qui arrivent aussi à faire appel sur appel. On ne sait pas dans quelques semaines, mois, ce que ça va donner. Vous parliez tout à l'heure de ces talents français qui partaient aux États-Unis mais qui allaient revenir, comme Juliette Deveau, qui est un talent français et qui revient dans le studio du Meilleur des Mondes. Bonsoir Juliette.
Bonsoir.
Pour nous offrir donc sa chronique du soir, une chronique qui va revenir sur un écrivain militant que vous connaissez évidemment, monsieur le ministre, c'est-à-dire de John Perry Barlow.
Et oui, pour cette chronique, je vous propose un voyage dans le temps, retour dans les années 90 pour rencontrer un des théoriciens majeurs d'Internet, donc l'écrivain et militant John Perry Barlow, connu notamment pour cette déclaration du cyberespace prononcée au Forum économique mondial de Davos en 1996. Écoutez l'introduction de son texte.
Governments of the industrial world, you weary giants of flesh and steel, I come from cyberspace.
Gouvernements du monde industriel, géants fatigués de chair et d'acier, je viens du cyberespace, la nouvelle patrie de l'esprit. Au nom de l'avenir, je vous demande, à vous du passé, de nous laisser tranquilles. Vous n'êtes pas les bienvenus parmi nous. Vous n'avez aucune souveraineté là où nous nous réunissons.
En 16 courts paragraphes aux accents lyriques, John Perry Barlow réfutait ainsi le droit aux États de légiférer dans le cyberespace alors qu'aux États-Unis se préparait une loi portée par Bill Clinton visant notamment à censurer les contenus pornographiques et à mieux modérer les propos violents en ligne. Si cette déclaration est symptomatique des espoirs placés dans le cyberespace dans les années 90, force est de constater que ces espoirs ont vécu. Alors que les hackers des années 90 voyaient dans les gouvernements la principale menace de colonisation du cyberespace, ce sont plutôt les entreprises privées qui ont structuré ce monde nouveau, charriant avec elles toutes les dérives liées à la recherche de rentabilité, viralité des contenus choquants, enfermement cognitif, utilisation des données des utilisateurs à des fins marketing. Et c'est ainsi que dans les années 2010, les gouvernements des États démocratiques furent appelés à la rescousse pour réguler ce nouveau monde devenu dans le langage courant le Far West numérique.
Voilà, comme quand on y revient toujours et en 2023, donc le cyberespace semble cerné de toutes parts.
Et oui, aujourd'hui, l'espace numérique semble devoir faire face à deux menaces simultanées. D'un côté, les dérives des entreprises privées et de leur modèle de rentabilité et de l'autre, l'inflation législative de certains États pouvant nuire à la liberté de circuler sur Internet. Dans ce contexte, les mots de John Perry Barlow sur la nature du cyberespace semblent pouvoir nous éclairer de nouveau. Pour décrire le monde en ligne, il parlait en effet d'un monde naturel, d'un monde social, obéissant à ses règles propres, évoquant la puissance de l'intelligence collective pour résoudre les conflits. Des mots qui ne sont pas sans rappeler le fonctionnement de Wikipédia, l'encyclopédie en ligne gratuite sous le feu des critiques d'Elon Musk ces derniers jours. Et si John Perry Barlow nous avait lancé un message prémonitoire dans les années 90, si la condition d'un Internet au service de l'intelligence collective était la mise en avant de plateformes libres, ouvertes et non lucratives. Une réflexion intéressante à mener sur les communs du numérique et qui sait, un moyen pour l'État de participer à la structuration du cyberespace tout en reconnaissant les singularités de ce monde à part.
Une chronique de Juliette Devoix retrouvée en podcast sur l'application Radio France. Et donc une question qui vous est indirectement posée, Monsieur le Ministre, la question des communs.
Oui, je crois que si nous sommes aujourd'hui dans cette situation d'immense frustration démocratique, c'est précisément parce que Internet a été conçu au départ comme un espace de liberté et un espace où toutes les collaborations étaient envisageables. Mais que c'est un espace qui, sur ses fondements mêmes de liberté, a été privatisé par un certain nombre d'acteurs qui sont devenus notre porte d'entrée quotidienne sur Internet. On a le sentiment parfois que, en étant sur un réseau social, on est sur une agora. Mmh. Ça n'est pas vrai. Vous êtes dans un espace qui a été privatisé et qui, pendant 20 ans, s'est abrité derrière ce type de déclaration pour dire « je n'y suis pour rien, j'ai organisé vos échanges, mesdames et messieurs, sur mon espace privatisé. S'il s'y passe des drames, je n'en suis pas responsable. » Et vous voyez cette immense frustration démocratique qui est née de la privatisation par des acteurs, notamment anglo-saxons, d'un espace conçu comme un espace de liberté, liberté sur le fondement desquelles elles se sont soustraites à leurs responsabilités sociétales. Et l'une des réponses à cette frustration démocratique, c'est effectivement la réhabilitation, s'il y a besoin d'une réhabilitation, en tout cas le développement des communs, des espaces collaboratifs qui viennent grâce à la sagesse des foules et grâce en réalité à ce que nous avons en partage, nous femmes et hommes, c'est-à-dire de bonnes intentions. Il y a beaucoup plus de bonnes intentions dans ce monde que de mauvaises intentions. Eh bien, faire progresser la connaissance, faire progresser l'échange, faire progresser l'humanité. Et nous étions la semaine dernière à Bordeaux pour Numérique en commun, et parce qu'il y a en France, un mouvement très vibrant et dynamique qui se mobilise en permanence pour développer ses communs.
Voilà, développer les communs, c'est sur cette dernière idée que nous allons terminer. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre Jean-Noël Barrot, d'être venu ce soir dans Le Meilleur des Mondes. On regardera avec attention donc, la suite de votre projet SREN en décembre pour voir comment cette loi évolue. Et puis, on verra aussi comment les uns et les autres la considèrent, réagissent. Je ne sais pas si vous avez des nouvelles d'Elon Musk, qui va bien ?
Il vous embrasse.
Eh bien, très bien. Eh bien, nous aussi, on embrasse les auditeurs et auditrices qui ont écouté cette émission. Et nous embrassons aussi celles de ceux qui ont participé à la préparation. Juliette Deveau, accompagnée par Béatrice Grégoire à la réalisation. Perret Legras à la vidéo. Édouard Rubinstein. Et bien sûr, au son, c'est Anthony Thomasson. Elon Musk, si tu nous entends, on t'embrasse pas, car aujourd'hui, c'est la grève. Nous sommes tous, enfin, en tout cas, personne n'y est, sur Twitter. Allez sur Blue Sky.